dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
La réalité est que pendant 2 heures, je cherche les nuisances du terrain. Donc pendant 2 heures, je charge mon organisme de tous les rayonnements négatifs qu'il y a sur le terrain. Donc il faut bien imaginer qu'autour de nous, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qui demeurent dans l'invisible. Pour autant, c'est pas parce que je le vois pas que ça n'existe pas. Puisqu'en fait, sous nos pieds, il y a du magma. L'écorce terrestre, ça représente seulement 1% du diamètre de la Terre. Donc il faut bien savoir et avoir conscience que sous nos pieds, on a une bombe nucléaire. La géobiologie, en fait, c'est l'influence du lieu sur les organismes. Donc que ce soit des animaux, les végétaux ou les humains.
Elle s'appelle Roxane Willem-Jam. Elle a choisi pour son entreprise un nom qui ressemble à une promesse.
Bien sur Terre.
Derrière cette enseigne, il y a une femme qui écoute ce que d'autres ne savent plus entendre.
Géobiologue, magnétiseuse, chercheuse obstinée de ce qui tremble sous nos pieds, Roxane travaille avec le vivant comme on approche un animal farouche.
Sans brutalité, avec patience, avec cette attention presque ancienne qui manque tant à nos vies pressées. Je l'ai suivie un matin dans un village de l'Aveyron.
Invitée par Jessica Baldi pour ausculter un terrain, une terre où viendra peut-être s'ancrer une maison, une vie, des habitudes, des sommeils, Roxane avançait avec méthode.
Elle déroulait des mètres rubans comme on déroule une carte secrète, plantait des sardines dans le sol, carroyant l'espace avec une précision presque archéologique.
Puis venait le temps du silence.
Celui où elle arpentait la parcelle, baguette de sourcier entre les doigts, antenne de l'échelle à la main, à la recherche de ce qui échappe au regard pressé.
Les eaux souterraines, les failles discrètes, les réseaux telluriques, ces cicatrices invisibles que porte la terre.
J'y allais avec prudence, presque en retrait, le micro à la main et le doute en bandoulière, curieux sans savoir très bien où poser mes certitudes face à cette discipline qui prétend toucher l'invisible sans jamais le posséder.
Et pourtant, Roxane ne parle ni en prophète, ni en prêtresse. Son regard est net, sa parole précise.
L'esprit scientifique en éclaireur, elle explique, démontre, relie, elle raconte comment un lieu agit sur le vivant, comment un terrain n'est jamais tout à fait neutre, comment habiter, c'est aussi consentir à dialoguer avec ce qui nous dépasse.
Dans cette nouvelle émission de Dissonance, il sera question d'architecture de l'invisible, de magnétisme et de sourcellerie.
Il sera question de poésie aussi, parce qu'il faut parfois des mots souples pour approcher ce qu'aucune règle ne suffit à contenir.
Mais surtout, il sera question d'harmonie, d'équilibre, d'une rationalité qui n'a pas peur de laisser entr'ouverte la porte du mystère.
Quand les lieux influencent le vivant, avec
Roxane Willem-Jam,
géobiologue,
sur Dissonance.
Donc là, je vais m'installer, je vais sortir mon matériel, je vais trouver un petit endroit pour poser ma table. Et puis la première étape, ça va être de dérouler les mètres, hein, qui vont me servir après à faire une sorte de quadrillage sur le terrain. Et sur la base de ce quadrillage, après, je vais commencer ma détection. Et comme ça, j'aurai déjà les mesures que je pourrai reporter sur le plan après. Alors là, c'est un terrain qui fait 370 mètres carrés. C'est un petit terrain, relativement plat. Donc voilà, pour moi, ça va être confortable. Là, tu vois, c'est la petite installation camping. Parce que pareil, je ne vais pas me mettre dans un endroit sur lequel il pourrait y avoir des nuisances. Donc là, je pose arbitrairement. Mais après, je vais aller vérifier l'endroit où je me suis installée. Okay. Pour que justement, je sois dans mon plein potentiel. Que je ne me fasse pas plomber mon énergie en étant assise au mauvais endroit.
Okay. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, la Roxane? Tu peux nous dire?
Elle s'installe.
Jessica Baldi.
Elle sort les plans que je lui ai envoyés. Et un plan qui me semble être vierge, sur lequel elle va marquer, elle, son propre plan. Et elle va aller chercher je ne sais pas quoi, d'ailleurs.
Donc elle a une grande valise avec plein d'objets dedans. Mmh. Ah oui, mais il y a des mètres, c'est des mètres, c'est ça?
Ouais. On se croira à l'école, à l'école de la forêt, quoi.
Et ça, c'est l'outil qui va me servir à faire toute la détection, c'est l'antenne de l'échelle. Donc en fait, je prends une des deux petites poignées dans chaque main. Et au milieu, il y a une règle graduée avec un petit curseur. Et en fonction du réseau ou de ce que je recherche, en fait, je vais choisir la bonne fréquence. Parce qu'en fait, tout est vibration, donc tout est onde. Voilà.
Et là, ça nous permet de voir que géobiologue, ça vient de la sourcellerie, c'est ça?
La sourcellerie, exactement.
Oui, la sourcellerie,
Il y a un U en plus.
Oui, voilà.
Mais alors, restons très rationnels. Moi, je fais une géobiologie d'ordre scientifique. Mais j'avoue que parfois, il y a quand même une petite part d'intuition qui est là, qui est le supplément d'âme, en fait. On n'est pas que sur du chiffre. Il y a une part d'investissement où ça passe par moi, mais ça pourrait passer par d'autres. Hein. Mais il y a une réceptivité, en fait, qui fait que ça conduit un message, une information. Voilà. Bon, et ben moi, je vais attaquer... Je ferai mon petit temps méditatif terrain après, là. Je vais d'abord peut-être poser les mètres, comme ça me fait prendre possession du lieu d'une autre manière. Oui. Ben, je vais quadriller le terrain, donc je vais faire toutes les bordures. Et je travaillerai après à l'intérieur de ce quadrillage.
Pourquoi tu fais appel à Roxane? Parce que tu veux y déposer une yourte, c'est ça?
Ouais, c'est ça, un habitat léger, une yourte qui sera posée sur pilotis. Et ça peut être intéressant pour savoir où la mettre, même si là j'ai déposé un permis et je suis un peu dans l'obligation de la mettre à un endroit comme il est indiqué sur le permis, mais c'est intéressant de le savoir avant ça. Voilà. Et à l'époque, je vivais dans une maison. Pendant des années, j'ai vécu dans une maison. Il y a une dame qui est venue me faire un soin à moi et qui a vu des choses incroyables sur la maison, dont de l'eau qui stagnait sous la maison. Et c'est un peu là aussi où ça m'avait fait déclic, tout ça, où elle m'avait dit, il faut partir de cette maison, même si le jardin est incroyable, l'intérieur, ça va pas du tout, il y a de l'eau qui stagne, il ne faut pas s'inquiéter que vous soyez fatigué. Enfin, elle m'avait sorti tout un truc qui collait vachement. Et voilà, du coup, là, ça me semble super intéressant de me dire...
Et ça s'est avéré exact, le fait que tu aies déménagé de cette maison, tu t'es senti mieux?
Ah oui, là, je suis dans une maison qui n'est pas humide, qui est saine, qui est spacieuse. Enfin, oui, ça, je l'avais senti. Et c'est vrai qu'à cette maison, à l'époque, en bas, je m'y supportais mal dans la cuisine. J'étais toujours fourrée à l'étage et très rarement en bas, soit dans le jardin, soit dans les chambres en haut, mais pas vraiment tout souvent dans le salon. Et une fois qu'elle m'a eu dit ça, je me suis dit, ah, mais c'est certainement pour ça que j'y suis pas bien dans ce salon. Donc là, je me dis que si je dois décaler ma yourte de quelques mètres pour pas être sur une faille ou sur de l'eau, ou... c'est intéressant de le savoir avant.
Donc là, Roxane a installé son matériel, son plan, et là, elle dépose des mètres pour faire une espèce de carroyage comme les archéologues. Donc on est à Saint-Bosély, petit village de l'Aveyron. On entend la cloche, il doit être 10 heures, c'est ça?
C'est ça.
Et le coucou. L'environnement est chouette quand même. Il n'y a pas de ligne à haute tension, il n'y a pas d'antenne relais 5G.
Non, on est préservé un peu par ici.
Tu es déjà loin de tout ça, quoi.
Ouais, ouais. Je m'en éloigne encore un peu plus. Est-ce que c'est un mythe, le noyer, qu'il ne faut pas se mettre dessous?
Ben, en fait, moi, j'ai toujours entendu que l'ombre des noyers rendait fada.
L'ombre des noyers, elle rend fada?
Oui. Alors, 25,70, et la base est en retard.
Tu avais lu des bouquins sur cette pratique sur...
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Je l'ai même sur le corps humain, oui.
Oui.
Mais pas... Donc c'est le même fonctionnement, à peu près. Mais je ne me suis jamais penchée là-dessus, non.
Et alors, les lignes énergétiques qui traversent le corps humain, c'est sur ça aussi que s'appuie l'acupuncture? C'est un lien?
Ouais, ça a un lien, oui. On est... farci de courants électriques et voilà, et des fois il y a des failles, et des fois il y a des blocages et ça circule moins bien parce qu'il y a blocage et on peut aller travailler sur tout ça, ouais.
Donc là il y aurait un parallèle à faire avec la Terre.
Ouais, après je sais pas si on peut modifier du coup, je pense que le corps on peut le modifier si on peut dire ça comme ça,
ouais.
Mais la Terre je crois que nous on va s'adapter à elle, mais... Ouais. On va décaler notre yourte, mais on va pas aller farfouiller à l'intérieur, je pense. Tout à l'heure, il y a ça, c'est toi qui t'adaptes ta construction en fonction de ce que toi tu vas trouver. Tu peux pas modifier.
La Terre, elle était là avant nous.
Ben oui.
Donc tu t'adaptes à elle.
Et voilà. Et voilà, tout simplement.
Allez, dernier passage, au milieu là.
Ça va. Dans l'autre sens, c'est ça.
C'est ça. Ouais. Ça va me découper le terrain en 4 carrés différents.
Et tu vas explorer chaque carré?
Et je vais explorer tous les carrés, ouais. Alors en général, on ne fait pas un terrain de plus de 500 mètres carrés parce que sinon c'est vraiment épuisant. Et puis on sait très bien que l'emprise d'une maison, c'est pas 500 mètres carrés, ça va être 100, 120, 130. Donc on se base comme maximum 500 mètres carrés et on redivise en petits morceaux, voilà, pour pouvoir être plus fin au moment de la détection. Ce que je te disais tout à l'heure, cette histoire de quadrillage qui permet de reporter à l'échelle.
À l'échelle sur le plan. Peut-être.
Voilà, je suis prête pour commencer. Voilà.
Le diagnostic prend une heure, deux heures, la journée.
Là, je vais en avoir au moins pour deux heures, je pense. Après, quand on travaille dans les maisons, c'est une journée complète. Hein, parce que là, on a de la chance, en fait, il n'y a pas de mur. Mais quand tu es dans les maisons, que tu dois détecter les réseaux, passer de part et d'autre du mur pour continuer à suivre ton réseau, ça prend un temps infini. Et puis, les maisons sont rarement droites. Hein, y a plein de coins biscornus. Donc, pour tracer le plan initial, ça prend beaucoup plus de temps aussi. Et là, en fait, je me suis avancée. C'est-à-dire que le plan à l'échelle, je l'ai préparé hier. D'après le relevé cadastral de la parcelle, en fait. Donc ça m'a fait gagner. Et ben, j'ai mis une heure hier pour faire ça, en fait, pour convertir les échelles et puis me mettre bien sur ma planche, quoi.
Sur le relevé cadastral, je vois le plan de la yourte, donc elle a prévu de le mettre là,
Ouais.
Toi, tu vas lui dire si c'est judicieux ou pas,
oui.
En fonction des énergies que tu vas détecter.
Voilà.
C'est ça?
C'est ça. La yourte, mais ça, là aujourd'hui on est sur un projet de yourte, mais c'est valable pour toute construction. Hein. Une maison, une bergerie, une grange, une entreprise qui est soucieuse de la qualité de ses salariés, qualité de vie de ses salariés.
Donc en fait, ça interagit sur le vivant, que ce soit des animaux, ou d'une bergerie, le monde agricole, ou même des salariés, des gens, donc en fait.
Ouais.
L'influence sur le vivant.
La géobiologie, en fait, c'est l'influence du lieu sur les organismes. Donc que ce soit des animaux, les végétaux ou les humains.
On te laisse bosser alors. Donc là, il faut que tu sois, on t'embête pas là. Hein.
Voilà, c'est là ça. Je vais me...
D'accord.
Me faire mon petit...
Quand les lieux influencent le vivant, avec
Roxane Willem-Jam,
géobiologue,
sur Dissonance.
Donc là, tu as pris l'outil, tu peux me rappeler son nom ?
L'antenne de l'échelle.
Voilà.
Donc là, en fait, ce que tu m'as vu faire, c'est que j'ai fait un premier passage avec la baguette de sourcier pour à peu près avoir une idée du nombre de cours d'eau qui passent sous ce terrain-là. Et là, de manière plus fine, je vais aller chercher chaque cours d'eau de manière individuelle.
Pendant que Roxane sillonne le terrain et échange avec le sous-sol, nous revenons vers Jessica pour continuer notre conversation.
Donc on disait que le corps devait être réceptif pour réagir à des vibrations qui se dégagent de la terre, c'est ça ?
Alors oui, je pense qu'on est tous, on a tous cette capacité-là. Mais il y en a chez qui c'est plus ouvert que d'autres. On est plus réceptif que d'autres et on a peut-être aussi des dons... Bon, après ça, on y croit ou on y croit pas.
Voilà, mais... la science, on n'explique pas. Mais voilà, tu me disais que dans ta famille, déjà, quelqu'un était sensible à...
Oui, et moi, petite, et c'est rigolo pour la petite histoire, mon grand-père, il était sourcier, mais il faisait ça avec, je me rappelle, une chaîne et une montre au bout. Donc, pour dire que ça peut être avec n'importe quoi, même ouais. Avec les mains, je pense qu'on pourrait arriver à le sentir. C'est juste... un outil supplémentaire. Donc il faisait ça avec une vieille chaîne, ouais, et les petites montres qu'on accrochait au.
Ouais, les montres à gousser, ouais.
Voilà. Et il était dans le jardin à faire ça. Je me rappelle aller le voir et dire qu'est-ce que tu fais. Il m'explique et il me dit tiens, mais donne-moi la main pour voir. Donc je lui donne la main et là le pendule il s'arrête net. Et lui il me dit eh ben toi t'as pas du tout ce fluide là. Ça, on l'a ou on l'a pas, lui, il me dit. Et j'ai toujours été très admirative de mon grand-père quand il faisait ça. Et du coup, ça s'apprend et ça se... avec beaucoup de concentration, de méditation. Et c'est pour ça, j'en reviens à... on a tous ces capacités-là, même quand c'est très fermé chez quelqu'un. Je pense que si on veut, on peut ouvrir ça, quoi. Voilà.
Donc là, il y a la détection des cours d'eau qui est faite. J'en ai quantifié trois qui sont un petit peu éclatés sur le terrain. Donc je vais reprendre les mesures, je vais commencer à les tracer. Voilà. Donc il y en a deux qui partent. Donc j'ai pas sorti ma boussole encore, il faut que je sorte ma boussole, mais dans ce sens, comme ça là, et un qui part comme ça.
Et ça, tu as la capacité à, comme les sourciers, savoir combien de mètres il est.
Je peux le faire, mais dans un deuxième temps, si tu te poses des questions, en fait.
Okay.
Voilà, là, pour l'instant, je fais vraiment, okay. J'essaye de faire couche par couche.
Okay.
Où c'est, comment ça fonctionne, et après, effectivement, on peut aller questionner le cours d'eau. Vers où il part, donc ça j'ai commencé à le faire, sa profondeur, son débit.
Pour capter une source ou quelque chose comme ça, c'est
oui,
super,
ça peut. Ça peut. Ça.
On peut t'embêter, Roxane ?
Oui.
Tu reportes les cours d'eau ?
Oui, je vais commencer à les reporter parce qu'en fait, si je superpose tout sur mon petit schéma initial, tu vois, ça va être vite illisible. Donc, tu vois, là, c'est les trois cours d'eau, donc celui que je vous disais qui part dans ce sens. Celui-là, son frère, dans le même sens, d'écoulement. Et puis, il y a celui-ci qui descend, là, qui va comme ça. Ne serait-ce pas, hein. Il y aura encore de la place.
Je vais la mettre en.
Mais après, tu vois, en fait, comme là, je suis sur le plan de la parcelle, et que moi, j'ai pas pu mettre mes mètres pile-poil en bordure, je me suis à peu près décalée de 1 mètre, on va dire, à la louche. Donc, je refais un tracé pour être à l'aplomb des bonnes mesures. Et sinon, dans la méthode, le fait de m'arrêter, là, tu vois, après la détection des cours d'eau, c'est aussi pour reposer mon mental. Parce que là, je viens de prendre des mesures, donc même si tout passe par le corps, le cerveau, il est quand même bien actif. Et c'est surtout que ça me permet après de réinitialiser. C'est-à-dire que là, je sais que je traite les cours d'eau. Après, je vais aller chercher quand même le... Quand j'aurai reporté tout ça, j'irai repasser une seconde fois pour voir le centre du cours d'eau, pour voir s'il est... Bien au milieu ou plus sur une rive ou sur l'autre, puisque ça peut avoir des incidences sur des remontées radioactives. Ne prenez pas peur, mais c'est ce qui se passe. Puisqu'en fait, sous nos pieds, il y a du magma. L'écorce terrestre, ça représente seulement 1% du diamètre de la Terre. Donc il faut bien savoir et avoir conscience que sous nos pieds, on a une bombe nucléaire. Donc c'est pas parce qu'il y a 40 km d'écorce terrestre que bah, tout va bien. Ça passe évidemment à travers et chaque fissure, chaque faille va permettre à ces gaz radioactifs de remonter et ces rayonnements aussi. Donc dans les cours d'eau, alors, a priori, les cours d'eau, ils sont pas là par hasard, c'est-à-dire qu'ils ont creusé, ils se sont mis là où il y a des fissures et des failles. Donc après, il faut aller chercher le centre du cours d'eau pour voir exactement si la faille, elle remonte à la verticale ou si elle est oblique. Ça peut avoir des incidences. Donc ça, je le ferai après. Même si j'ai fait des études de littérature, je pouvais partir dans les sciences. Les profs m'y incitaient d'ailleurs. Mais quand on ne travaille pas cet aspect-là de notre cortex, quand il faut s'y replonger, c'est un peu dur. Donc là, je le fais de manière très édulcorée, mon explication.
Ça veut dire que dans les sciences rationnelles, on n'aborde pas du tout ce que tu appelles ce qui émerge du cortex, c'est ça ? Tout l'à côté, tout ce qu'on ne peut pas expliquer, et pourtant qui existe, non ?
Eh bien,
toi,
voilà.
Tu es scientifique.
Oui, ben oui. Mais en fait, déjà, si tu regardes le cosmos, l'univers, on connaît que 5% de ce qu'il y a dans l'univers. C'est-à-dire qu'on connaît que ce qu'on a pu découvrir, que ce qui est visible, pas de notre œil, mais des super méga télescopes. Donc il faut bien imaginer qu'autour de nous, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qui demeurent dans l'invisible. Pour autant, c'est pas parce que je le vois pas que ça n'existe pas. Alors, moi je suis, voilà, j'ai des capacités scientifiques, après mon univers, moi c'est plutôt la poésie en fait. Et en fait, l'harmonie entre les choses, les relations entre les choses, je suis hyper curieuse de comprendre pourquoi ça s'est connecté à ça et comment le branchement se fait en fait. Donc quand je suis arrivée dans la géobiologie, mais pour moi ça a été, voilà, on parlait d'univers, hein, tout un univers qui s'ouvrait et dans lequel tout mon corps était en vibration parce qu'il était, ouais, je comprends, des choses que naturellement, intuitivement, je ressentais qu'il a sur lequel en fait on posait un discours scientifique que moi j'avais pas étudié en fait, mais dont on nous faisait l'apport. Et donc en fait c'est juste génial de pouvoir confirmer avec des outils et de la pratique des ressentis qui sont en moi depuis toute petite. Se laisser embarquer ni trop par l'un ni trop par l'autre. C'est-à-dire que si je me laisse aller que par dans l'esprit scientifique, en fait, je me coupe de ce que je perçois, de mes intuitions. Et en même temps, si je suis que mes intuitions, ça peut aller très loin. Donc il y a toujours cette espèce de yo-yo, de va-et-vient entre le ressenti et le tangible. Et ça, c'est une vraie prise de tête quand même. Tant que tu n'as pas l'ancrage nécessaire, il vaut mieux pas aller dans ce genre de pratique. Bah parce qu'en fait, tu vas être tout le temps en décalé. Tu vas vouloir projeter des choses. Alors qu'il faut arriver à les dissocier, en fait. Dans la formation, par exemple, il y avait des gens, ils étaient à fond dans leur mental. Donc déjà, l'antenne, elle ne plongeait jamais. Ils étaient crispés sur leur outil, là. Ils voulaient que ça plonge et ça ne plongeait pas. Ou alors tu voyais qu'ils forçaient à fond pour que ça plonge. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est OK, je me connecte à l'esprit de l'eau, je vais chercher l'eau, d'accord ? Donc ça, c'est le message que j'envoie à mon cerveau. Mais à un moment donné, si je bloque trop la résonance, je ne vais jamais le trouver, l'esprit de l'eau. Il faut se laisser traverser par l'esprit de l'eau. Donc c'est cette espèce voilà, de souplesse qu'il y a entre l'information que je donne à mon corps de capter et le laisser faire. Donc si tu es trop dans l'intuition, tu vas peut-être être attiré par plein de choses, t'éparpiller et peut-être aussi faire des sorties de route. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment un bon ancrage préalable.
Il faut combien de temps pour trouver ce juste milieu, ce bon ancrage ?
Ça peut prendre toute une vie. Thank you.
Quand les lieux influencent le vivant, avec
Roxane Willem-Jam,
géobiologue,
sur Dissonance.
Moi, je suis du domaine des gens sensibles, voire hypersensibles. Et quand j'étais petite, je ne m'en rendais pas trop compte, je ne posais pas les mots dessus. Donc pour moi, tout était naturel, tout était pas jeu, mais aventure, expérimentation. Et dans la vie, j'avoue que plusieurs fois, j'ai eu je me suis retrouvée dans des situations difficiles, avec des émotions qui débordaient et que je ne savais pas trop comment canaliser, voire des coups durs et des situations assez compliquées à traverser. Mais bon, je m'en accommodais. Et j'ai toujours cette sensibilité et cette connexion à la nature, quoi qu'il arrive. Moi, je suis née dans le Piémont pyrénéen. Mon enfance, c'était les petits villages, les cours d'eau, les cabanes dans les arbres, les balades à vélo, enfin voilà, c'était les oiseaux, etc. Après, j'ai déménagé sur Montpellier quand j'avais une dizaine d'années. Donc là, ça a été un peu le choc des titans, parce que je passais d'une enfance libre et joyeuse à une vie réglementée, en quartier, dans des lotissements, où il ne fallait pas trop sortir. Et puis, propulsée dans une vie dont je ne connaissais plus rien ni personne. Donc, obligée de se confronter à ces éléments-là. Et finalement... Se confronter à ça, c'est découvrir qui tu es, même si c'est douloureux. Parce que tant que tu habites dans l'endroit où tu es né, tu ne te poses pas la question de qui tu es, parce que tu es né dans cet endroit. Donc forcément, tu es partie intégrante des lieux. Sauf que quand tu es, entre guillemets, déraciné, tu es propulsé dans une vie où finalement, tu dois dire qui tu es. Et quand tu ne le sais pas, il faut l'apprendre. Et souvent, on l'apprend à coup de rejet, en fait. C'est souvent les rejets qui te permettent de définir ton contour. Quand tu es bien, que tout va bien, ben c'est super, tu ne te poses pas toutes ces questions. Mais quand tu as des rejets, quand tu as des coups, quand ça pique, eh bien ça vient titiller des endroits au fond de toi où tu sais que ben là, tu n'es pas en phase. Ou bien que ce que tu projettes dérange. Voilà. Et donc, petit à petit, tu découvres tes propres contours et tu découvres peu à peu qui tu es. Mais c'est encore là le chemin de toute une vie. Et alors, pourquoi j'arrive à la géobiologie à plus de 40 ans? Parce que, très simplement, j'ai fait une sortie de route, comme j'appelle, un burn-out pro, pendant lequel j'ai été dans une sorte d'errance médicale qui a duré plusieurs mois, et où la médecine conventionnelle ne m'a pas permise de passer le cap. Voilà, le compte rendu, les examens faits, c'était, prenez des antidépresseurs et ça ira mieux. Or moi, je savais que je n'étais pas en dépression. J'étais vraiment dans un cheminement très, très obscur, avec des symptômes physiques handicapants. Jusqu'à cette époque-là, je n'arrivais plus à conduire. J'étais prise de vertige qui me coupait vraiment l'herbe sous les pieds. Mais je me suis battue dans le sens où non, je ne prendrai pas une camisole chimique pour aller mieux. Je veux comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'avec cette sensibilité-là, et avec mon goût de la perfection, et mon goût aussi qui revient au moment de mon enfance, de devoir prouver qui je suis, de mériter l'attention que les gens m'accordent, étant sortie de mon noyau familial et initial, voilà, ça a été une vie en fait de lutte et de combat pour arriver à se faire une place dans cette société-là. Et donc le burn-out, il est venu mettre le doigt sur tout ce mensonge en fait, que j'avais absorbé sur toutes ces conditions nécessaires pour être, que j'avais faites miennes. Et tout ça, en fait, a volé en éclats. Et clairement, je me suis retrouvée par terre, démunie, comme si la belle construction que j'avais édifiée de moi-même, cette belle personne, ces belles compétences, tout ce à quoi on attend de répondre et d'avoir dans la vie, s'effondrait. Et donc à devoir rebâtir pierre à pierre ce nouvel édifice. Et en fait, j'ai pas eu envie de rebâtir un édifice, j'ai juste eu envie d'ouvrir mon cœur. D'ouvrir mon cœur au flux de la vie, et de regoûter à ça. Donc en parallèle de la médecine traditionnelle, conventionnelle, j'ai suivi des thérapies alternatives et médecine douce. Et c'est une... alors là, ça va être un peu très intime, mais c'est une personne dans ce parcours-là qui m'a dit, pour vous, on me souffle le mot géobiologie. Alors là, on ouvre un autre pan, hein, parce qu'on me souffle qui, où, quand, comment, là, voilà. Mais on me souffle géobiologie. Et moi, je reçois ce mot à l'issue de la séance que je viens d'avoir avec cette dame. Je reçois ce mot, et d'un coup, il y a comme une lumière qui s'illumine, tout mon corps qui dit, bah, ouais, géobiologie, ben oui, bien sûr, c'est évident. Mais sans même savoir à l'époque ce que vraiment ça signifiait. Pour moi, il y avait la géographie, la géologie, la biologie, toutes ces sciences voilà, qui sont liées au domaine de la Terre et du vivant. Mais exactement la définition, je ne savais pas. Et donc, je fais mes recherches, je commence à acheter des bouquins, tout ça, en me disant, ben, je vais y arriver, je vais me former toute seule, comme d'habitude. Et là, je me suis dit, non, en fait, je vais aller chercher les gens compétents qui pourront faire ça. Donc, j'ai suivi une formation auprès de l'École française de géobiologie, qui a une approche scientifique, et c'est vraiment ce dont j'avais besoin, puisque prise dans mes symptômes de vertige, inutile de rajouter une couche de choses impalpables, voilà, j'avais besoin de concret, même si je savais que je mettais des pieds dans un monde qui allait forcément révolutionner toute ma vie et donner un corps à l'invisible. Voilà. Et au fur et à mesure des sessions de formation, j'étais comment dire, inutile de dire que j'étais à la bonne place, quoi.
Tu t'es sentie réceptive de suite.
De suite. Et le formateur qui est Alain de Luzan, dès la première session, donc ça commence par un tour de table, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a amené à la géobiologie, etc. Donc on fait ça, ça dure un long moment, on était une vingtaine à se former. Et donc à la pause, ben, y a ceux qui vont faire pipi, il y a ceux qui commencent à se connecter, à discuter, tu bois un café, tout ça. Donc moi j'étais là avec mon petit café, et puis il arrive vers moi, il me dit « Toi, t'es au bon endroit ». Donc là, pouf. En fait, c'est un peu fou, parce que ce soit cette dame-là qui me donne géobiologie, ou ce monsieur-là qui confirme ma présence au bon endroit, ça fait énormément de bien, parce qu'il y a une sorte de perception extérieure de quelque chose que moi je percevais mal encore. Mais donc en fait, il y a cette validation extérieure. Donc c'est assez, assez fort, parce que quand tu démarres, tu en as besoin en fait de la validation extérieure. Mais après, la difficulté est de se donner sa propre légitimité à exercer. Et c'est pour ça qu'en fait, entre le moment où tu te formes, et on parlait tout à l'heure d'ancrage, il y a un chemin à parcourir.
Et alors,
il est bon, trop le
ben, il est là.
Tu appelles ça le grand diagonal.
Le grand diagonal, ouais. Il est là. C'est un réseau tellurique, on appelle ça nous des murs, hein. ça fait des murs ou des cloisons. Et voilà, il a une maille de 20 mètres par 20 mètres. Et là, sur le terrain de Jessica, ben, il y a une maille qui passe comme ça, tu vois. Puis après, là, t'en aurais une autre, et puis ça se continuerait comme ça, hors plan. Mais sur son terrain, il passe là. Donc, il faut que l'implantation de la yourte, elle ne soit pas pile poil dessus.
Sur une ligne de maillage.
Voilà. Après, c'est pas un souci non plus qui traverse une habitation, parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein, parfois. Mais par contre, du coup, à l'intérieur de l'habitation, il faut être vigilant sur qu'est-ce qu'on met à cet endroit-là. Et donc, par exemple, pour une maison... si t'as ton grand diagonal qui passe là et que c'était la chambre à coucher, tu dis, ah, peut-être la chambre, on va pas la mettre à cet endroit. Peut-être on va plutôt mettre une salle de bain. Ou peut-être une cuisine. Parce qu'en fait, c'est des endroits où tu passes, mais où tu séjournes pas. Et la nocivité des réseaux, c'est quand tu séjournes longtemps dessus. Et notamment dans les zones de repos ou de travail. Voilà. Le travail, un bureau par exemple, où tu vas rester assis plusieurs heures par jour, tu vas essayer de te positionner au meilleur endroit. Pas sur des nœuds ni sur des réseaux. Et le lit, encore plus. Parce qu'en plus, le lit, c'est une zone de vulnérabilité dans le sens où c'est l'endroit où tu te déposes. Donc si le moment du dépôt, le seul moment de la journée où tu remets les armes, on va dire, tu vois, où tu abandonnes tout toute la nuit tu te fais bombarder par un réseau électrique ou autre, puisque le Grand Diagonal est de nature électrique, et bien ton organisme y pâtit. Alors il pâtit pas du jour au lendemain, hein, mais c'est l'accumulation en fait, la prolongation, le fait de séjourner durablement sur ces endroits-là qui impacte l'organisme. Donc là, même si l'emprise de ta yourte, elle mord dessus, au final, pas de panique. À toi de te dire, bah tiens, à cet endroit-là, je ne mettrai pas mon lit. Voilà. Et maintenant, je vais me mettre en quête d'un réseau qui, lui, est super bon. Parce qu'il y en a des pas bons, il y en a des bons. Alors,
oui.
Là, je ne cherche pas le réseau Curie, parce que le réseau Curie, alors, c'est une yourte. Normalement, ça ne devrait pas trop bouger. Mais quand même, c'est un réseau qu'on va plutôt détecter une fois que tout est en place. Le réseau Curie, il a une capacité d'être un petit peu malléable. Donc selon la construction, tu vois, je vais te le cartographier là, par exemple. Mais il va bouger un petit peu.
Okay.
Il a comme un élastique, tu vois, que tu peux un peu tirer comme ça. Donc il n'y a pas d'intérêt sur un terrain de cartographier le Curie. Le Hartmann non plus, je ne le fais pas.
Okay.
Cela, par contre, je l'ai fait dans les habitations. Et là, je vais donc chercher le réseau solaire, qui lui aussi est cosmotellurique, donc ciel-terre, mais qui a plutôt une influence du cosmos, donc réseau solaire en fait. Et c'est quelque chose qui va venir être nourrissant pour les organismes. Les autres sont dévitalisants, ils plombent, parce qu'ils viennent arracher des électrons et ils viennent en fait créer une usure sur nos structures internes, alors que le réseau solaire, il va être même inspirant. Donc c'est un endroit où clairement tu peux aller t'asseoir pour méditer, ou bien tu peux poser ton bureau, un espace créatif ou de ressourcement. Donc, normalement il devrait y être aussi sur ce terrain. Lui il a une maille encore plus grande de 30 par 15.
Okay.
Tu vois, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'on va le trouver.
Okay.
Je te demande pas comment tu vas faire, on va te regarder faire.
On va te regarder.
Bah, comme pour tout le reste.
Avec l'antenne, ouais.
D'accord.
Génial.
Mais pourtant, c'est marrant parce que, excuse-moi de te suivre, mais tu vas parler d'un lien, d'une énergie qui vient du ciel, et tu tournes ton antenne vers le sol. Tu peux...
Je la tourne vers le sol. Disons qu'en fait, l'antenne, elle va franchir, je parlais tout à l'heure de mur ou de cloison, elle franchit quelque chose, elle franchit un obstacle qui là est pas visible, après c'est pas un obstacle, c'est une source d'énergie, c'est un courant électromagnétique, donc elle le franchit. Et quand elle le franchit, nous on a un code mental qui est que quand je touche ou quand je franchis, ça plonge.
D'accord.
Voilà, donc ça va vers le sol. Tu regarderas les sourciers, pareil, quand ils tournent sur un cours d'eau, pouf, leur baguette, elle plonge. Alors c'est vrai que c'est plus logique parce que le cours d'eau, il est dessous, mais là, nous, c'est notre code mental. Quand je franchis un élément... voilà, une énergie, je demande
ou de la terre.
Exactement, je la franchis et pouf, ça plonge. Et de toute façon, qu'elle vienne du ciel ou de la terre, ça s'élève, hein. C'est pas juste au ras du sol, on est vraiment sur une histoire de mur. Donc je traverse des murs. Quand je traverse un mur, ça plonge.
Quand les lieux influencent le vivant, avec
Roxane Willem-Jam,
géobiologue,
sur Dissonance.
Donc là, je vais vous montrer où est-ce que j'ai trouvé le réseau solaire. On va marcher dessus. Donc voilà, il passe comme ça, ici. Donc c'est un réseau cardinal, ça veut dire qu'il est perpendiculaire au nord. Mais tu vois, en fait, il passe là, et tu vas le retrouver comme ça, qui traverse tout ton terrain dans la longueur.
Oh, mais c'est génial.
En gros, presque jusqu'au petit cerisier qui est là-bas.
Okay.
Normalement, ce petit cerisier, vu son emplacement, il devrait bien s'épanouir. Okay. Parce que tout ce qui est dessus infuse beaucoup, tu vois. Il y a souvent des arbres remarquables, ça j'ai fait le test. Tu sais, quand tu vois des arbres remarquables, là, qui ont des statures hyper imposantes, alors déjà, ils n'ont pas été taillés, ils n'ont pas subi de dommages de foudre ou quoi, mais surtout, ils sont très souvent sur les réseaux solaires. Pompe d'énergie. Donc en fait, moi je disais tout à l'heure, c'est un réseau qui est très bon pour la santé parce qu'il amène de la vitalité, il amène, c'est un lieu de ressourcement, etc. Pour autant, dormir dessus, c'est pas forcément conseillé, c'est comme si tu avais un peu les doigts dans la prise, quoi. Positivement parlant, hein.
Ouais, c'est génial parce que quand tu vas acheter une maison ou un terrain, tu visualises les axes cardinaux, la maison du voisin, le parking pour garer la voiture.
Ouais, mais pas ça.
Mais pas ça.
Et oui.
Tu nous fais voir l'invisible, là, Roxane.
Et oui, c'est tout l'intérêt de faire cette détection. Alors, c'est que dans l'idéal, c'est avant la construction. Ouais. Ça, c'est vraiment dans l'idéal. Après, si les murs sont déjà posés, bien après, ça peut aider à l'aménagement intérieur de la maison. Et si la maison est déjà là, parce qu'on l'a achetée, et qu'on n'a pas forcément le budget pour faire des gros travaux, ça peut être au moins rationalisé en fonction des réseaux et leur circulation, l'emplacement des lieux. Où est-ce que tu mets ta chambre à coucher, où est-ce que tu mets ton bureau, où est-ce qu'au sein de la chambre à coucher, si tu veux pas changer de chambre et tu te dis c'est moi là, c'est ma chambre, je veux pas aller ailleurs, eh bien c'est le positionnement du lit, in fine. Mais en fait c'est une question d'adaptabilité, quoi. Et plus on travaille sur les réseaux, et plus presque en fait, là j'utilise toujours l'antenne, c'est un peu une sécurité, mais presque avant que l'antenne plonge, eh bien je sais déjà que c'est là. Je l'ai déjà ressenti, l'information dans mon corps, quoi.
Mais tu ressens physiquement ça?
Oui.
Tu le ressens, oui. Voilà.
Je vous donnais un exemple. Donc là, c'était quand, il y a quelques années, parce qu'on aime bien voyager. On était... où est-ce que c'était, dans quel pays? Bon, bref, on était à l'étranger. Et on avait une sorte de petit Airbnb, etc. On était à table en train de manger après une journée bien remplie. Et moi, à table, je commençais à avoir des sortes de palpitations. Je me sentais vraiment pas bien. Je dis, bon... Rox, t'es fatiguée. Puis en fait, j'avais fait suivre mon antenne parce que maintenant, ça fait vraiment partie du package, dans le sac à main. Je me mets à mesurer l'endroit où j'étais. J'étais pile poil au croisement du Grand Diagonal. Autrement dit, toutes ces manifestations que j'avais dans mon corps, ben, elles étaient, une fois que j'ai fait la détection, complètement justifiées. Donc j'ai décalé la table, je me suis réassise et 2 minutes après, c'était nickel.
Roxane nous met en situation. Elle nous demande à Jessica et à moi de se placer sur l'emplacement du Grand Diagonal et du réseau solaire, puis de dire nos ressentis.
Et c'est quoi cette ligne là?
Là, c'est le réseau solaire.
C'est le réseau solaire.
Et l'autre, c'était le Grand Diagonal.
Ah, d'accord. Donc on est mieux sur le solaire.
Oui, bah oui, on est mieux sur le solaire. Donc le Grand Diagonal, c'est celui qu'on proscrit le plus parce que c'est celui qui va venir, comme j'ai utilisé le terme, perforer le champ de notre corps et comme l'inciser en fait. Les autres, on va être mal aussi, on va les éviter, surtout quand il y a des nœuds. On se met jamais sur les nœuds, mais c'est tolérable. Par contre, quand c'est finement comme ça resserré, ben, c'est comme si on te lacérait en fait. Et le solaire, ben, on l'a expliqué tout à l'heure, pourquoi là on va être bien? Eh bien parce que c'est une énergie qui est revitalisante. Donc le corps, il se met au repos, il se met en harmonie, il se sent plus stressé en fait, il arrive à se déposer.
Une question bête et pénible, mais toi qui as une formation scientifique, tout ça, c'est pas prouvé scientifiquement. Comment? C'est du ressenti, mais du ressenti vérifié, mais...
Alors, c'est du ressenti vérifié. C'est vrai que bon, moi, je voudrais pas être un petit perroquet et répéter simplement ce que j'ai appris. C'est que je l'ai aussi perçu, comme je vous relatais l'expérience de cet Airbnb la fois passée. Et puis, tous les géobiologues qui sont confrontés, leurs travaux, travaillent parfois ensemble, font des terrains ensemble et confrontent leurs détections. Et 9 fois sur 10, ils ont détecté la même chose. Donc même si on se dit c'est une vue de l'esprit, c'est pas scientifique, alors pourquoi des êtres humains qui se mettent en quête de la même chose vont trouver la même chose au même endroit ?
quand les lieux influencent le vivant, avec
Roxane Willem-Jam,
géobiologue,
sur Dissonance.
Le diagnostic est terminé, nous nous retrouvons à l'abri du vent. Donc Jessica, est-ce que tu as eu toutes les infos que tu voulais avoir par rapport à l'implantation de ta yourte sur ton terrain ?
Oui. J'étais pas partie pour en avoir du tout. Donc du coup, c'est que du bonus moi, pour moi tout ça là.
Donc ça te donne un éclairage, tu visualises comme disait
Roxane. Ouais, je visualise et puis ça me conforte dans mon idée, dans mon choix. Je me dis qu'intuitivement, j'ai voulu la mettre comme ça, j'ai voulu la mettre là. Et je me dis, ben, ça tombe plutôt bien et je suis assez contente. Ouais.
Donc Roxane, tu viens de créer une entreprise.
Oui.
C'est ça ? Qui s'appelle ?
Elle s'appelle Bien sur Terre. En fait, j'ai réfléchi un petit moment à trouver un nom à l'entreprise. Et là, c'est pareil, en fait. Il faut se mettre dans une position de réceptivité. Et puis le mot est venu, enfin le nom est venu. Et c'est vrai qu'il m'incarne bien. Enfin, en tout cas, j'espère bien l'incarner aussi. Parce que pour moi, c'est à deux niveaux. C'est être bien sur Terre, mais c'est aussi faire le bien sur Terre. C'est les deux.
Ah oui, tu peux aider donc les gens concrètement aussi à bien vivre, à bien à être bien là où ils sont, quoi. Et pour ça, apprendre à trouver ce qu'on ne voit pas et que toi tu ressens.
Bah, en fait, je suis magnétiseur. C'est la deuxième activité que je développe dans l'entreprise. J'ai commencé d'abord par la géobiologie parce que pour moi, c'était plus simple d'appréhender les lieux, supposer qu'il n'y ait pas d'homme dessus, mais en fait, il y a quand même du vivant. Hein. Tu vois, tout à l'heure, avant d'attaquer le terrain, j'ai fait le tour, je suis rentrée en relation avec l'esprit des lieux, comme j'appelle. Et aller travailler sur le corps humain, je ne m'en sentais pas immédiatement capable, parce que je pense que je n'étais pas prête. Parce qu'on rentre là, pour le coup, tu parlais d'histoire aussi au début, on rentre dans l'histoire personnelle des gens. Et moi-même, j'avais pas, je dis pas que je l'ai fait, hein, mais j'avais pas moi-même bouclé ma propre histoire. Donc je me sentais pas en capacité d'aller intervenir dans le champ énergétique des gens, alors que ma propre énergie n'était pas à la bonne place. Donc j'ai commencé par les lieux, beaucoup plus simple. T'arrives dans les lieux, hop, tu gères, tu détectes, tu cartographies, tu restitues. Je dis pas que c'est simple, mais c'est simple.
Oui.
Après, quand tu rentres en relation avec un individu, ouais. Tu es dans la sphère du mental. Hein, on en a parlé aussi de ce fameux mental. Et donc, moi, je ne suis pas psychothérapeute. Pour autant, avant chaque soin en magnétisme, il y a une partie comme ça d'échange où la personne va te confier pourquoi elle est là et donc dévoiler un peu son histoire. Donc, il faut être en capacité d'accueillir cette histoire sans être jugeant, avec la bonne distance, de ne pas s'en faire envahir et d'être encore en capacité, toi, à ce moment-là, d'offrir le soin. Et donc ça, au début, je sentais, j'avais vraiment une appétence pour l'humain, mais j'avais besoin de faire mes premiers pas ailleurs, en fait. Donc pour moi, les lieux, c'était bien. Mais ça m'habitait beaucoup, donc j'ai commencé à me former là-dessus, en parallèle. Et donc aujourd'hui, j'ai aussi commencé les soins en magnétisme humain.
Tu trouves une différence entre les deux ?
Ben non, pas
le
du terrain. Tout.
Pas du tout.
Ben, pas du tout, en fait. C'est tellement lié, c'est tellement évident. Et puis, en fait, quand j'allais dans la maison des gens, je pouvais donc détecter tous les phénomènes géobiologiques naturels, peut-être aussi ceux qui étaient un peu plus subtils. Donc, en gros, tu remets en harmonie un lieu où tu expliques comment il fonctionne. Mais si la personne, entre guillemets, elle est en vrac, bon, ça va lui faire du bien, ce que tu as fait. Mais il faut aussi s'occuper de la personne. La personne, indépendamment du lieu dans lequel elle habite. Donc, en fait, il y avait des relations tellement fortes que l'un et l'autre sont liés. Quoi.
Toi, quel esprit très, très cartésien, je crois qu'il faut le dire. Qu'est-ce que tu mettrais derrière ces mots, l'esprit des lieux ?
Je trouve que, justement, pour le coup, le mot cartésien, il est mal approprié pour parler de ça. C'est justement changer de lunettes. Hein, on va avoir les lunettes de la raison, les lunettes de la compréhension, celle qui veut tout argumenter, tout comprendre, etc., et mesurer. Et puis là, on enlève ces lunettes-là et on est plus dans quelque chose qui nous déborde, qui est cette relation entre la Terre, notre positionnement en tant qu'humain et notre fil qui nous relie au cosmos. Et l'esprit des lieux, en fait, quand on aborde un lieu, il faut imaginer que le lieu, il est déjà peuplé. Nous, humains, on est un petit peu usurpateur de fait, mais il est déjà peuplé par les racines, par les champignons, par les insectes, par tout ce qui grouille sous la terre, par les oiseaux dans les arbres. Et en fait, quelque part, cerner l'esprit des lieux, c'est entrer en résonance avec ça et presque demander la permission d'intervenir dans ces lieux-là, sans qu'on soit un intrus, mais qu'on arrive à être en symbiose avec tout ce qui environne. La guêpe qui passe, le petit rongeur... En fait, c'est aussi ma personnalité, je suis un petit peu caméléon, c'est-à-dire que quand j'arrive dans un endroit, j'aime pas dire « Wouhou, salut, c'est moi !» Je vais d'abord prendre une sorte de température, je vais m'adapter au lieu, c'est pour ça que je dis caméléon, et après je vois comment je peux intervenir dans le lieu. Je fais aussi pareil dans les groupes humains en général. J'ai du mal à me mettre en avant comme ça et à faire tout, 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 tout. Donc voilà, moi, c'est cette espèce d'acclimatation qui est nécessaire. Et puis après, voilà, que ce soit la nature ou les groupes constitués, c'est la même approche, quoi. C'est dire bonjour, je suis là, je me présente hein, et je vais intervenir. Et c'est presque demander un accord subtil à des choses qui n'ont pas la voix pour te répondre. Hein. Mais dans le fond, tu peux savoir si tu peux y aller ou pas, en fait. Et depuis longtemps, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, et je suis très intéressée par tout ce qui est chamanisme, et je me rends compte que ma pratique se teinte de plus en plus de chamanisme. Et le chamanisme, en fait, c'est ça, c'est le contact à l'esprit des lieux, à l'âme des lieux, quel qu'il soit. On a parlé du végétal, on a parlé des animaux, mais aussi des âmes qui peuvent effectivement transiter par là. Et tout ça, plus on s'ouvre et plus on est traversé par ces courants-là qui sont subtils, qui vont se manifester dans notre corps par des sensations physiologiques, comme un souffle sur la peau, comme des petits picotements, comme des chaleurs, ou au contraire des crispations, du froid, des frissons. Et tout ça, c'est pas souhaité, c'est pas recherché, parce que je pense qu'il faut y aller progressivement dans ce milieu-là du subtil. Il faut y être invité, et il faut, encore une fois, bien garder les pieds sur terre. Mais en tout cas... La partie chamanique m'intéresse beaucoup. Je l'intègre du coup dans la pratique de la géobiologie et je l'intègre aussi dans mes soins en magnétisme. Quand je reçois une personne, je sais que je la reçois elle, mais que je ne la reçois pas qu'elle. Je sais qu'elle arrive en fait avec l'histoire de sa génération, de sa lignée et peut-être aussi d'autres histoires. Donc voilà, en fait, c'est cette porosité entre des mondes finalement. Des mondes visibles, matériels et tangibles. Et puis, ces voiles qu'on s'autorise à lever, mais qu'il faut lever avec précaution au fur et à mesure qu'on a une certaine maturité, parce qu'on va pouvoir réagir. Et des fois, quand on va trop vite, eh bien, on sait qu'on a été trop vite et on va avoir un truc qui va faire « Hii ! Ah, là, j'aurais pas dû !» Donc, en fait, c'est une sorte de chemin de sagesse.
On a parlé d'esprit des lieux, on a parlé de poésie, tout à l'heure tu as parlé de poésie. Est-ce que la poésie, c'est pas l'esprit de l'âme ? Et que c'est pour ça que tu as accroché, que tu as commencé par ça ?
Pour moi, la poésie, c'est le moment fugace. C'est celui, en fait, qui existe à partir du moment où tu veux lui donner une conscience et où tu lui poses un regard dessus. Par là, tout peut devenir poétique. Mais le déclencheur, c'est l'émotion que ça aura générée en toi. Et comment, en quelques mots, parce qu'il peut y avoir la poésie du regard, la poésie des formes, voilà, on n'est pas obligé de passer par de la formulation, mais en tout cas, c'est comment, par l'assemblage des mots et la sonorité de ceux que tu utilises, tu vas arriver à rendre vivant un état qui, a priori, est soit fugace, soit matériel, tu vois. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans la poésie, c'est ça. C'est comment, en fait, tu viens faire swinguer. J'aime bien ce mot de swing parce que je suis une grande matrice de musique aussi. Et comment, en fait, tu vas venir swinguer, juste donner le petit mouvement, la petite impulsion à quelque chose. Et ouf, c'est comme un cadeau, en fait. Et aussitôt, ça disparaît.
La dernière question, la conclusion, c'est Jessica qui va nous la faire.
Ah bon?
qu'est-ce que tu as ressenti avec cette connexion sur lieu, du coup? C'est ça qui m'appelle, petite curiosité.
Ben déjà, moi, j'ai ressenti que oui, je pouvais aller sur le lieu, mais je m'étais déjà connectée à lui avant de venir. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu travailles sur un plan et où moi, je me déplace sur site... Bon, aujourd'hui, on a des super logiciels, Géoportail, etc. Donc, avec l'adresse, hop, je vais voir comment c'est. Et déjà, en fait, j'envoie un flux d'énergie. Parce qu'en fait, c'est télépathique. Hein. L'énergie, elle circule. Hein, qu'on soit là à quelques centimètres ou à plusieurs centaines de kilomètres, à partir du moment où tu te connectes, tu envoies un flux d'énergie émetteur-récepteur. Donc, j'étais déjà connectée au terrain et je savais que je pouvais y aller.
Ok.
Voilà, déjà ça. Après, en arrivant sur place, j'ai apprécié ce grand noyer. Et j'ai ressenti qu'en fait, ce noyer, en tout cas, c'est lui que je suis allée voir, il était un peu le gardien du lieu. Tu vois, celui qui aurait eu la mémoire du lieu, de ce qui s'était produit avant, etc. Comme s'il portait, en fait, dans son écorce et dans sa sève, tout ce qui, l'histoire du site, en fait. Donc voilà, je suis allée lui dire bonjour. Et après, je suis intervenue. Mais je me suis sentie bien sur ce lieu. Et je pense que tu vas t'y sentir très bien aussi.
Est-ce que tu peux me dire comment tu te sens après 2 heures du diagnostic en plein vent?
Alors, je suis pas vidée, mais je suis bien fatiguée quand même, parce que il faut imaginer que quand on est en diagnostic comme ça, on sort toutes les antennes en fait. Ça, c'est pas du tout une période de repli, au contraire, il faut tout ouvrir, tout déployer. Pour être le plus canal possible. Donc en plus dans le vent, mais les antennes elles bougent. Hein. Et puis la réalité est que pendant 2 heures, je cherche les nuisances du terrain.
Le côté négatif.
Exactement. Donc pendant 2 heures, je charge mon organisme de tous les rayonnements négatifs qu'il y a sur le terrain. Donc forcément, ça fatigue. Voilà. Là, j'aurais bien besoin d'aller m'asseoir sur le réseau solaire pendant un petit moment.
Vas-y.
Merci beaucoup, Roxane. Et puis, merci, Jessica.
Mais merci à vous.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Joseph.
De plus amples informations sur...
Bien sur Terre.
En allant sur la page internet de Dissonance.
www.dissonance.ovh.
Salut
et fraternité.